Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir, c'est l'heure du ENRV, nous sommes en direct tous ensemble au studio 621, c'est en plein cœur de la maison de la radio. Bienvenue à toutes et à tous, ce soir un programme monstre avec trois invités redoutables. Michel Hazanavicius signe une comédie pop joyeusement explosée par mai 68, Le Redoutable, portrait de Godard, vie artiste en voie de radicalisation politique. Michel Hazanavicius, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, un autre iconoclaste, Yann Fabre, plasticien, performeur, chorégraphe, maître flamand, qui met en scène 24 heures, oui, pas moins, de spectacles et de performances. Ça s'appelle Mount Olympus, une œuvre monstre défendue jusqu'au dernier souffle par vos guerriers de la beauté. Yann Fabre, bonsoir.
Well, good evening.
22h30, c'est un héros, donc il sera aussi au cœur de l'instant V, Valy.
Chacun son héros, hein. On dirait, vous avez vu, Laurent, on dirait un tournage
hollywoodien.
Il y a des caméras partout dans le studio, c'est pour mieux filmer Tricky, héros justement du trip-hop qui sort son 13e album. Tricky, c'est comment en live?
Usually the live stuff we do is quite emotional, so there's not a lot visually goes on, but there's a lot feeling, you know, so it's more of a energy and emotion.
J'adore son accent, il fallait l'entendre jusqu'au bout. D'habitude, nos lives sont pleins d'émotions, ce n'est pas très visuel, d'où les caméras. Mais il y a beaucoup de feeling, oui, d'énergie et d'émotion. Donc, deux titres de ce nouvel album dans quelques instants.
23h, ce sera l'heure du journal, donc on part. 23h15, tiens, on revient avec le NRV La Suite. Ce soir, engrenage à la télévision, mais à qui profite le polar? Parce que ça paye, hein, manifestement, Benoît Lagan.
Oui, on va enquêter ce soir, Laurent, sur les séries policières françaises. Ça n'a jamais cessé, ça existe depuis tout temps. Donc, du coup, on en parle avec plusieurs invités. Trois femmes, deux hommes. Anne Landois, scénariste d'Engrenage, la série de Canal+. Vera Peltekian, de la chaîne Canal+. Séverine Barthe, une universitaire de la Sorbonne. Et puis deux Pierre, Pierre Langlais de Télérama et Pierre Ziamniac, auteur d'Exception française, un essai sur 60 ans de séries en France.
Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Le NRV, 22h, minuit, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Des dieux et des hommes, c'est ce qui vous relie, vous, Yann Fabre, avec 24 heures de spectacle sur le monde Olympus, et puis vous, Michel Hazanavicius, avec ce film qui est sorti aujourd'hui, Le Redoutable, que vous auriez pu appeler l'intouchable, parce que quand on lit la presse, quand on voit la violence des débats pour ou contre qui agitent la critique, on se dit que Godard, puisque c'est le personnage de votre comédie, Godard est vraiment le dieu intouchable. Vous vous attendiez quand même à cette levée de bouclier, je lisais la presse et j'avais le sentiment que vous deviez toujours vous défendre d'avoir voulu porter atteinte au génie du grand homme dans les entretiens que j'ai pu lire ces derniers temps.
D'abord, j'aurais adoré faire Intouchable. Ça m'aurait bien arrangé. En fait, c'est pas tant que ça. Alors, c'est peut-être que vous avez des lectures ciblées, mais grosso modo, la presse est très très bonne.
Alors, la presse est plutôt bonne, mais il y a quelques échos.
Il y en a quelques-uns.
Et avec lesquels vous discutez justement pour défendre votre point de vue, comme si vraiment c'était
mais en fait,
sacré.
Il y a un esprit de sérieux autour de Godard, qui d'ailleurs, à mon avis, le trahit un peu, parce que ça a toujours été très joueur et très iconoclaste et très libre, Godard.
Dans ses premiers films, et même encore dans les derniers.
Oui, même encore. Mais, enfin, en tout cas, la liberté et l'audace, ça, on peut pas lui enlever. Mais oui, il y a une espèce de truc un peu muséal autour de Godard qui fait que j'ai un peu l'impression d'avoir marché sur la pelouse, et c'est tant mieux.
Yann Fabre, Godard, ça représente quoi pour vous? Pour vous, plasticien, performeur, figure emblématique de la scène avant-gardiste flamande, Godard, ça représente quoi?
Yeah, it was just, I think last Saturday he was in the national Belgian television.
Samedi, il était sur la télé belge.
An old movie from Godard.
Il y avait un vieux film de Godard, de 63.
Young Piccoli, young Brigitte Bardot.
Jeune Brigitte Bardot, un jeune Piccoli.
Le mépris.
Ah, beautiful movie.
Beau film, superbe film. Fantastique. Beau travail. Ça a 50 ans. Et c'est toujours très avant-gardiste.
I mean, all the reference to film,
toutes les références aux arts visuels, la façon dont il a construit le film, c'est comme si je me léchais les doigts.
Great artist.
Vraiment, grand artiste.
C'est comme dans votre film, c'est-à-dire c'est toujours cette période-là que l'on cite, les années 60.
Oui, parce que c'est la période la plus accessible et la plus, comment dire, tournée vers le public, c'est-à-dire...
La plus pop aussi,
la
vraiment.
La plus pop, charmante, séduisante, il y a des personnages, il y a des acteurs, c'est-à-dire aussi, à partir de 67, à partir de La Chinoise, il arrête les acteurs, pendant un moment.
Oui, parce qu'après, il va les retrouver, hein.
Oui,
Isabelle Huppert, dans les 80. Même Alain Delon.
Mais c'est vrai que là, il y a un travail de comédie visuelle, qui est dingue, un travail sur la musique. En fait, il est encore dans le champ du cinéma traditionnel, donc c'est assez simple d'aimer ses films. Après, c'est plus âpre.
D'autant plus, vous dites une dimension visuelle, mais il faut savoir que Godard était peintre aussi, au départ. Il a signé quelques toiles.
Oui, enfin, on retiendra surtout comme cinéaste.
Oui, bien entendu, mais quand même, il y a ce passé-là aussi. Et j'ai appris que vous aussi...
Enfin, Hitler aussi était peintre.
Oui, d'accord. Churchill aussi, enfin, il y en avait plein, oui, d'accord. Et on retiendra d'Hitler autre chose qu'en effet le fait qu'il était mauvais peintre. Pour vous aussi, le dessin, c'est quelque chose d'important. J'ai vu quelques dessins de vous qui passaient dans la presse, notamment des trucs pas mal. Vous dessinez même Jean-Luc Godard. Vous faites des storyboards.
Oui, je fais mes storyboards, mais comme vous dites, c'est pas mal, en fait.
C'est pas mal du tout.
Non,
même.
Mais je veux dire, je dessine comme certains chantent sous la douche.
Je peux vous assurer que je chante sous la douche peut-être mieux que je ne dessine.
Oui, j'ai dit certains. Mais j'aime bien ça. J'ai 50 ans, ça fait 40 ans que je dessine. Au bout d'un moment, oui, on commence à choper un peu le truc. Mais j'en ferai pas commerce, c'est ça que je veux dire.
Vous avez fait une formation?
Oui.
De dessin? En quoi?
J'ai fait une école d'art, une école nationale, qui s'appelle Sergi Pontoise, et puis j'ai pris des cours de dessin, j'ai fait un cursus, j'aime ça.
Vous vous destiniez à avoir une carrière plutôt de ce côté-là?
Pas du tout, mais en fait je viens d'une famille, si vous voulez, où dans un souci d'intégration, les études étaient quelque chose d'important. Bon, c'était à ma portée, donc j'ai fait ça, mais non, j'avais envie de m'amuser plus qu'autre chose.
Et vous, Yann Fabre, comment vous êtes arrivé du côté du dessin, de la pratique, de la performance? C'est pas votre famille qui vous a poussé dans cette dimension-là, parce que vous aussi, vous avez fait des études d'art plastique.
I did two art schools when I was a young guy.
Oui, j'ai fréquenté les écoles d'art quand j'étais jeune.
Drawing. When I was 5 years old, my father took me to the zoo.
Dessiné depuis l'âge de 5 ans. Mon père m'a amené au zoo pour que je dessine des animaux, des humains.
Drawings and paintings of Rubens.
8 ans, je copiais les tableaux de Rubens.
Every night,
ah oui, quand même.
Every night I make drawings and writings.
Chaque nuit, je fais des dessins. Yeah. Ouais.
It's my breathing.
C'est ma respiration. C'est la base de tout.
Vous copiez aussi au départ?
Au départ, je copiais. Effectivement, je faisais pareil. Mais c'est ce qu'il y a de plus simple pour commencer.
Rubens?
Non, pas Rubens. Non, je faisais des photos. Après, j'ai fait du plâtre, j'ai fait du nu, j'ai vraiment une formation très classique de dessin. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne pourrais pas ne pas dessiner.
Vous continuez toujours, en fait.
Ah ouais, bien sûr. Mais je vous dis, j'en ferai pas commerce. Mais c'est comme écouter de la musique. Enfin, vraiment, si je perdais ma main, je serais. Ultra malheureux, pas que pour le dessin, mais c'est vrai que c'est hyper important. Je fais des réunions, je dessine. Quand je me concentre, je dessine. C'est un truc très, j'ai besoin de ça. Ouais.
Quand vous dites je n'en ferai pas commerce, on vous a proposé d'exposer certains de vos dessins?
Non, pas du tout. Enfin, pas spécialement. Non, mais je vous dis, c'est vraiment, c'est un truc qui m'est très personnel, intime. Là, j'ai accepté de les montrer, effectivement.
Dans la presse, pour montrer la façon dont vous dessinez Godard.
C'est parce qu'ils ont fait un documentaire, alors ils sont venus voir et tout. Donc, j'ai montré un peu mes carnets et tout ça. Donc, ils ont accroché sur les dessins, voilà.
Bon, on va parler de cinéma dans quelques instants et de performance. Alors, avant de chanter Pandi Panda et autres chefs-d'œuvre, Chantal Goya tutoyait le redoutable, et oui, tutoyait Jean-Luc Godard dans Masculin, Féminin.
Je ne crois plus en tes promesses, tu m'as trop menti. Tu connaissais mon adresse, tu ne m'as pas écrit. Tu m'as fait trop de peine quand tout au long des jours j'attendais que revienne l'écho d'un plus beau jour. Je ne crois plus en tes promesses, tu m'as trop menti. D'autres filles à ces promesses ont déjà dit oui. T'amusant de mes larmes versées pour cet amour. T'amusant de mon âme, tu me laisses à mes jours. Tu m'as trop menti. Je n'ai plus que la tristesse pour croire à la vie. Implorant l'existence qu'un jour tu comprendras. Et pour ma délivrance, je pourrai.
Mes vrais acteurs, moi, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de rire, ils rient. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Enfin, je trouve ça grotesque.
Sur France Inter.
Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait.
Mais bien sûr qu'il le ferait. La voix de Louis Garrel en Jean-Luc Godard dans Le Redoutable, votre nouvelle comédie, Michel Hazanavicius. Un commentaire sur cette déclaration de votre personnage sur le métier d'acteur ?
En fait, le début de la phrase est une citation de Godard lui-même, qui vient du Petit Soldat. Moi, j'ai rajouté la fin. J'ai rajouté la vanne.
Je pouvais bien imaginer voilà. L'heure du détournement jusque dans la citation.
Ouais. Voilà, exactement. Non, je trouve ça assez amusant. Non, moi, j'aime bien partir d'un truc. Là, en l'occurrence, c'est un peu méprisant, c'est un peu méchant. Bon, j'en fais un truc plus complice avec le spectateur.
Mais ça raconte quand même quelque chose du cinéma de Godard, selon vous, cette déclaration. Ah, même détournée et tout, ça veut dire quoi?
Ah oui, moi, je trouve le cinéma de Godard... notamment celui des années 60, qui pour moi est une espèce de décennie enchantée pour Godard, il est fulgurant, c'est-à-dire qu'il est à l'avant-garde, il touche à des thèmes que personne ne touche à ce moment-là, et il a un truc très drôle, c'est que quand vous regardez les films de l'époque, tous les autres films singent la réalité, sont très réalistes. Et lui, c'est pas du tout réaliste. Il n'y a aucun souci de réalité. Quand vous voyez les films 50 ans plus tard, le seul où il y a vraiment un parfum de réalité, c'est les films de Godard. Alors que les autres ont l'air très théâtraux. C'est assez marrant comme procédé.
Alors, Le Redoutable est arrivé aujourd'hui en salle et pas en sous-marin, parce que Le Redoutable, en fait, c'est le nom d'un sous-marin et ça constitue un running gag dans le film. Donc, pas en sous-marin, mais bien à vue, le film, c'est 2 ans dans la vie de Jean-Luc Godard, fin des années 60. Il est marié à son actrice Anne Wiazemski. C'est aussi leur histoire d'amour. C'est le tournage de La Chinoise, mai 68, annulation du Festival de Cannes, radicalisation politique de Godard qui va tourner le dos à son cinéma, un Godard en crise, un héros burlesque qui perd régulièrement ses lunettes, encore un running gag qui raconte bien les choses, bande-annonce.
Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard.
Monsieur et Madame Nous ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion.
Marion Nous ?
Oui, mon amour, Marion Nous.
J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Il était sur le point de se révolutionner lui-même.
Vous avez pas peur que ça dégénère ?
Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là.
Fasciste de merde, salope !
Pardon, monsieur Godard, allez-y. Vous avez pas reconnu sans vos lunettes.
Merci.
On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé. Je te pondrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre.
Aujourd'hui, Godard, c'est devenu ça. Un petit amuseur ridicule qui prend une pose de révolutionnaire. J'en veux plus de ce con.
Une chanson italienne, mais c'est une comédie italienne, ce film, en fait.
Je me suis beaucoup inspiré des comédies italiennes dans le sens où c'est des tragédies. Ouais. Raconté avec beaucoup de légèreté, mais on ne perd pas, même si on met de la distance, même si on met de l'humour, même de l'humour très distancié, on essaye de respecter les personnages, les vrais conflits et ce qui leur arrive. Donc il y a toujours ce côté hyper déchirant, on rit, en même temps c'est très cruel, etc. Je suis absolument fan de l'équilibre des comédies italiennes de la grande époque. Et c'est vrai que j'ai essayé de m'en inspirer humblement.
Alors le film, c'est beaucoup de choses. C'est un couple d'artistes, le réalisateur et son actrice, ici jouée par Stacy Martin, qui ressemble d'ailleurs plus à Chantal Goya, qui a tourné avec Godard. Elle ressemble plus à Chantal Goya qu'à Anne Wiazemski. De toute façon, le fait d'imiter Anne Wiazemski ou de vouloir lui ressembler, c'était pas du tout votre propos.
Non, pas du tout. En plus,
autant Godard devait être Godard.
Oui, Godard est plus connu. D'abord, c'est vraiment une icône pop, ouais. Godard. Le personnage d'Anne Wiazemski est un peu moins connu. Et puis en plus, pour j'aimais bien l'idée. Comme c'est un moment de bascule dans la vie de Godard, j'aimais bien le placer dans sa période avant, des années 60. Et elle est absolument délicieuse dans ce...
Dans tout ce que pouvaient représenter même toutes les héroïnes de Godard à cette époque. Le film, c'est aussi un film sur le cinéma, sur celui de Godard, qui, comme vous, pratiquait aussi le détournement. Je pense à Pierre Houlfou, qui est un film de détournement de tous les codes du polar. Mais aussi, c'est un film sur mai 68. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi, parce que ça, je me suis demandé ce que ça représentait pour vous, mai 68, pour le filmer d'une façon qui n'est plus du tout dans le registre de la comédie. C'est-à-dire que Godard est un personnage burlesque en mai 68, mais ça éclaire autre chose, ça éclaire le sérieux de mai 68, en fait.
Oui, en fait, j'ai essayé que mai 68 soit le point fixe de Godard. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un décalage, il faut qu'il y ait quand même un point d'ancrage. Et mai 68 était le point d'ancrage. Et c'est Godard qui est en décalage. Mai 68, moi, ça représente un truc, une espèce de révolution presque idéale ou idéalisée. C'est-à-dire qu'elle est, elle est faite par des jeunes gens. Il n'y a pas de volonté de prise de pouvoir. Il y a une volonté de changement. Les gens sont drôles, ils sont sexués, ils sont spirituels, ils sont pleins de fougue, de vitalité, etc. Donc, en fait, c'est pas tant mai 68 que le souvenir qu'on en a.
Mais vous, quel souvenir vous en aviez? Vous aviez quel âge en mai 68?
Moi, j'avais un an, certes, mais j'habitais à Avenue de la République. Donc, j'ai un souvenir très, très vague, mais bah j'ai connu la
suite. La on vous en a parlé chez vous de mai 68? Putain.
Oui, parce que, non, mais par contre, je plaisante, mais effectivement, on m'a raconté, j'étais chez ma grand-mère et je faisais un an. Donc,
parfait. Ça a représenté quelque chose aussi pour vous, Yann Fabre, mai 68, du côté de la Belgique. Vous vous souvenez de ces événements ici à Paris?
Vaguely, yeah, I was 10 years.
Vaguement, ouais, j'avais 10 ans.
Ah, c'est ça.
10 ans.
Yeah, a little bit.
Ouais, un petit peu.
Yeah. De toute façon, votre révolution, vous la ferez plus tard dans les années 80, on en parlera tout à l'heure. Alors, dans ce film, on croise aussi des personnalités d'aujourd'hui. Romain Goupil en flic pendant 68, un clin d'œil sur son passé politique, bien sûr. Et puis Jean-Pierre Mocky, qui fut lui aussi un héros de Godard, puisque par exemple, le film Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma va sortir en octobre, et Mocky était un personnage de Godard. Il vous a raconté cette aventure, il vous a raconté son tournage, la relation qu'il avait avec Godard, j'imagine.
Il a un peu raconté, oui.
Je vous vois sourire. Qu'est-ce qu'il a pu raconter?
Mais il a raconté qu'il se souvenait plus, très bien du tournage, mais qu'il comprenait pas bien ce qui se passait, qu'à un moment donné, il m'a dit, mais le film était trop court, visiblement, parce que c'était une commande qui a été faite par TF1 à Jean-Luc Godard. Et, dans une série consacrée au thriller, etc. Il dit, le film était trop court. Alors, il m'a dit, bon, viens, on va aller dans la voiture, et puis on va discuter. Il m'a dit, ça n'avait rien à voir avec rien. On s'est assis, on a discuté. Et puis, bon, finalement, le film a eu la longueur, demandée. Donc, il voit ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de distance. Au-delà de ça, c'est surtout que je trouve que les deux, ce sont des francs-tireurs, c'est des hommes libres et des réalisateurs qui ont créé leurs moyens de production et qui font des films, quoi. En dehors de tout, de manière très libre. C'est ça que j'aime bien, ouais.
Ils se voient encore, vous pensez ou pas?
Je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. Je suis pas sûr que Godard voit beaucoup de monde. Enfin, je sais qu'il se voit plus trop avec Varda, ça je sais. Mais...
Oui, ça on l'a vu dans le film qui vient de sortir avec JR, parce que normalement JR et lui et elle ont rendez-vous avec Godard. Et bien sûr, Godard ne sera pas au rendez-vous, mais avec un petit mot bien lapidaire. Alors, le film est en quelque sorte un détournement, comme à vos débuts, Michel Hazanavicius. On va y revenir. C'est Godard détourné en héros de comédie, et ça a donné une idée à nos réalisateurs qui se sont demandé ce que ça donnerait si OSS 117, c'est-à-dire Jean Dujardin, s'invitait dans Le Mépris, La Chinoise, dans Pierrot le Fou, dans À bout de souffle. OSS 117, Nouvelle Vague.
Vous êtes déterminée, vous êtes courageuse, vous n'avez jamais flanché, vous n'avez jamais détourné le regard. Vous êtes intrépide, vous êtes jolie, vous êtes élégante.
Écoutez-moi ce con.
C'est bien simple, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon double féminin.
Je sais pas moi, tu es pas un homme, tu es un pauvre type.
Merveilleux. C'est pas le dernier crime, enfin ça fera amplement l'affaire.
Mais c'est un peu ce porcelain. Puis en banque 1, je t'ai dit 5.
Non, j'ai fait mon boulot, moi. J'ai dressé l'avion, je vous ai sauvé la vie. Alors si vous voulez qu'on travaille d'égal à égal, faudrait vous y mettre.
Hector, on peut pas avoir de conversation.
J'ai compris les trois inégalités fondamentales d'un régime capitaliste en France.
Épargnez-moi vos analyses politiques.
Si tu n'appliques pas une politique juste, tu appliques une politique fausse. Et si tu ne l'appliques pas consciemment, tu l'appliques aveuglément.
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Oui, d'accord, enfin...
Je sais qui vous êtes.
Moi aussi, je sais qui vous êtes.
Je vais vous faciliter les choses, mon vieux. Je vais vous dire tout ce que je sais.
Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures.
Vous étiez avec Marianne quand elle a poignardé notre ami Donavon, et vous? Vous vous êtes tiré avec 50 000 dollars qui m'appartiennent.
Non, je ne crois pas, non.
Vous ne m'intéressez pas spécialement.
Je n'ai pas aimé le truc sur les vaches.
C'est votre dernière chance. Ou vous me le dites maintenant, ou on vous corrige à mort.
Commençons tranquillement, voulez-vous? Avant de corser les choses.
Ou bien c'est la vérité, ou bien c'est faux. De toute façon, il y a tellement con qu'il dira rien d'autre.
Pas envie.
Tu sais, tu disais que j'avais peur, Michel. C'est vrai, j'ai peur. Parce que je voudrais que tu m'aimes.
Alors, Michel?
Eh ben, les deux sont aussi drôles.
Ouais, finalement
la rencontre des deux marche bien.
Mais la rencontre, vous y avez pensé, j'imagine, non? Jamais?
à faire ce genre de montage?
Oui.
Non, pas du tout.
Bon, dites, ça a été votre carte de visite au départ.
Non,
ce genre
sûr,
de détournement.
Ouais, ouais. Non, mais ce qui est vrai, c'est que quand j'ai fait OSS 2, qui se passe en 67.
Ouais.
Et donc, en gros, ce serait presque OSS 3, chronologiquement, enfin, le redoutable.
Mais on allait y revenir, pour moi, c'était ça.
Oui. Non, mais c'est vrai qu'en regardant un peu les différentes cinématographies d'époque, j'ai regardé les films de Godard et Coutard, enfin, éclairés par Coutard, et je me disais, ce serait pas mal quand même. Il y a un truc là, il y a une image hyper forte, et ce serait bien de travailler là-dessus, ouais.
Comment vous avez d'ailleurs travaillé l'image de ce film, qui est un hommage aussi, véritablement, au film de Godard, puisque l'on retrouve des séquences qui sont des pastiches de ce que pouvait faire Godard, des montages très rapides, des faux raccords?
Oui, alors je me suis inspiré, là encore un peu comme mes 68, de plus du souvenir qu'on en a, ou de l'idée qu'on s'en fait, que réellement, alors des fois il y a des choses plus précises, mais on a travaillé de la manière la plus précise possible avec Guillaume Schiffmann, le chef opérateur, et Christian Marty, décorateur, Sabrina Riccardi, chef costumier, etc., de manière à retrouver les couleurs, les textures, et voilà, et moi j'essaie de cadrer, de retrouver la saveur de ces films-là.
Pour moi, Le Redoutable, en effet, c'est le OSS 117 numéro 3. D'autant plus que Le Redoutable, c'est un titre qui, pour moi, me fait penser à autre chose. Ça me fait penser à la grande époque de Belmondo, ouais, dans les années 80. C'est le marginal, c'est je sais pas trop quoi.
Le guignolo. Le
guignolo, mais c'est vraiment ça.
Le magnifique, oui, moi je suis...
Vous avez pensé à ça? Alors que même Le Redoutable, c'est l'histoire d'un sous-marin. Bon, on va pas revenir sur
ouais,
ça,
ouais,
parce que c'est...
C'est ce qui m'a... Je crois que c'est ce qui m'a vraiment décidé. C'est que ça avait cette couleur-là. Le magnifique, Le Redoutable, je trouve, ouais, il y avait un truc qui me plaisait bien là-dedans. C'est à la fois et en même temps, il y a un peu d'ironie parce que c'est un nom. Il n'aurait pas fait un redoutable, comment dire, Belmondo, il était plus malin.
Mais moi, quand j'ai vu le film, je pensais que c'était le film que Godard crache dessus pendant tout dans Le Redoutable. C'est le genre de film, il ne veut pas avoir une histoire, il dit on ne s'intéresse pas aux histoires. Et c'est ça qui m'a amusé aussi dans cette réalisation, dans l'histoire du film.
Ah oui, mais de toute façon, Godard va pas. Ça ne peut pas être un film de Godard. Moi, je ne suis pas faussaire.
Non, mais c'est-à-dire qu'il crache dessus et vous faites Godard en plus. Ce n'est pas un biopic, évidemment, mais dans un film qu'il n'aurait absolument pas. Mais c'est ça que je trouvais amusant dans le film.
Mais je vais vous dire, il est tellement imprévisible que peut-être même que vous vous trompez.
Et peut-être
savoir.
Même qu'il est allé voir ce film et qu'il pourrait le faire.
Alors,
et peut-être même
l'autre.
Qu'il m'a envoyé un SMS.
Alors peut-être bien, vous
et
l'avez
peut-être
nous
même
dire.
Qu'on va vous piquer votre portable pour le vérifier.
Peut-être même que je ne vais pas me laisser faire.
Alors, et peut-être même qu'on va vous tabasser ce soir. On est plus
mais peut-être même
vous.
Que je vais appeler les flics.
Michel Azanavicius, vous avez commencé par la télévision, les sketchs des nuls, des pubs, puis le faux de vrai faux documentaire, donc Le Grand Détournement avec plein de citations, puis passage au cinéma, grand succès populaire, OSS 117, 1, le deuxième, puis ensuite bien sûr The Artist. Quand je vois certains critiques aujourd'hui, je me suis demandé, notamment des critiques qui disent que par exemple vous voulez vous payer Godard, comme si on passait quand même quelques années de sa vie quand on fait un film à vouloir se payer Godard, je me demandais si vous ne payez pas le fait de ne pas être du sérail, et d'autre part si vous ne payez pas vos succès populaires.
Je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que ce serait quand même, là vraiment ce serait les mépriser. Je pense
quand on vous dit que vous cherchez à vous payer Godard, je peux pas imaginer qu'un créateur pendant combien de temps on met pour faire ce film.
Oui, c'est 2 ans, mais vous avez tout à fait raison. Je veux dire, c'est absolument pas une motivation.
C'est
je pense
absurde.
Qu'il se trompe un tout petit peu dans la chronologie des choses. C'est-à-dire que moi, je tombe sur un livre. Et ce livre me donne un désir de film. Et je travaille à partir de là. C'est pas comme si je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je me taperais bien Godard. Comment je vais faire? Tiens, ce livre est pas mal. Donc c'est juste une histoire de comment les choses naissent par le désir, par l'envie. Et c'est plutôt des passions positives. Et là, ils le mettent dans un truc de passion triste. C'est-à-dire, comme si je faisais un film revanchard, j'en serais bien incapable.
Mais il n'y a pas de revanche à prendre.
Même avec les blagues sur les nazis que je fais, elles sont sympas. Je veux dire, même.
Beaucoup plus sympa que les. Et que justement, le rapport plutôt trouble qu'a pu avoir à un moment donné Jean-Luc Godard face à Israël. Il suffit de regarder le film pour s'en rendre compte, et d'ailleurs les déclarations qu'il avait eues à l'époque. Quand on choisit comme sujet un artiste, on parle aussi forcément de soi. Donc c'est un film, c'est Godard, son cinéma, son histoire d'amour avec son actrice. Alors je me suis demandé, Michel Azanavicius, je vais y arriver quand même, qui verriez-vous pour tourner la vie détournée de l'homme qui a inventé OSS 117 et The Artist? Qui pourrait tourner votre vie?
Comme réalisateur?
Mais bien sûr.
Eh bien, Godard.
Et non, qui pourrait vous jouer? Ce serait vraiment formidable. Et qui pourrait vous jouer?
Qui pourrait me jouer? Je sais pas. Faudrait quelqu'un qui me ressemble un peu, genre Brad Pitt.
Ouais, c'est ça.
Non, je sais pas qui pourrait me jouer. Non, je sais pas. Vous me prenez un peu
au dépourvu.
J'ai pas envie de mettre une personne dans l'embarras. J'ai rencontré Pio Marmaille, figurez-vous, à Deauville, et j'ai trouvé absolument charmant et drôle. Et ben, disons Pio Marmaille.
Et ben voilà. Le Redoutable est sorti en salle depuis ce matin. Merci Michel Hazanavicius. Vous restez avec nous pour la suite du programme dans quelques instants. Et ben, le héros du trip-hop, Tricky, qui est derrière nous, et puis Yann Fabre.
Rendez-vous.
J'adore ce générique, il vous illumine. Valérie, l'instant V, tout de suite.
Il est plus IAM que NTM. Il est définitivement Billie Holiday et Kate Bush. Il adore la boxe et il a une passion pour la rap russe. Tricky, il est comme ça. Surprenant.
La rap russe.
Le rap, j'ai dit la rap.
Oui, non, mais c'était pas grave. C'était charmant. Russe.
La rap du futur.
Voilà, exactement. Ouais. Il est surprenant. Il a une gueule impressionnante, mais pas aussi impressionnant que ça quand même. Mais c'est une crème. C'est un des parrains du trip-hop, mouvement créé à Bristol en Angleterre au début des années 90. Ses comparses s'appellent Massive Attack ou Portishead. Tricky prend son indépendance très vite et enchaîne d'autres aventures. Beaucoup de voyages en couchsurfing, un séjour de 6 ans à Paris et des disques à gogo. Un Uniform est son 13e et c'est comme un retour aux sources. C'est du Tricky. 9 titres ont été enregistrés à Berlin où il vit et 4 à Moscou avec des rappeurs russes. Son grand rêve depuis ses 20 ans. Il est en studio pour 2 morceaux. Le premier s'appelle The Only Way. Tricky sur France Inter et sur Facebook Live. Tricky.
Go away.
This is the only way, the only way you go away. Come back again. Come back again. Come back again. Come back again. Every time I hear a name, I fall apart. Is this the end? Why did we start?
Facebook Live avec les cordes très gainsbourgiens sur ce titre, Tricky, et accompagné par Luke Harris à la batterie et Paul Knowles à la guitare. Tricky, merci d'être avec nous. Thanks for being here. Écoutez, je trouve que c'est un album qui sonne vraiment comme du Tricky, comme un retour aux sources. En êtes-vous d'accord? I said this album sounds like Tricky. I mean, almost like you're going back to your roots.
I don't know. I just make music. I'm just.
Je ne fais que de la musique. J'en sais rien.
Every time you do an album, you learn.
À chaque fois on fait un album, on apprend.
So it's a constant learning process.
Donc c'est un processus
from this album,
de,
I learn
d'appre-
d'apprentissage.
So apprentissage.
I'm growing. You know.
Grandis. Je mûris. Alors après 6 ans à Paris, vous vivez maintenant à Berlin. Pourquoi avez-vous choisi cette ville? I said you lived in 6 years in Paris. Why have you chosen Berlin?
Because I realized, we're touring, we promote.
Parce que je me suis dit, puisque je fais beaucoup de tournées, de promotion.
When you're on tour, it's nightlife.
Quand on est en tournée, on vit la nuit.
It's a fast life, you know.
C'est une vie très vite.
I do nothing. Like I go.
Quand je suis à la maison, je ne fais rien. À Berlin, je me couche à 23 heures. Je connais personne.
Balance of life, you know.
C'est une espèce d'équilibre. Alors, il y a 4 morceaux avec des rappeurs russes. Comment avez-vous découvert le rap à 20 ans, sans doute à Bristol? I said you have the 4 songs with the Russian rappers.
Yeah, Russian
How
rappers.
Did you discover Russian rap at 20 living in Bristol?
No, they don't live in Bristol.
No,
they
you,
live in Russia.
But you discovered Russian rap.
Yeah, but
rap.
I didn't discover them in Bristol. I discovered them in Russia.
Oh, when you, at 20?
Nah.
Mais I heard that you love Russian rap since you were 20 years old.
I've been going to Russia for 20 years.
Ah, ça fait 20 ans que je m'y rends en Russie.
I've met people there, so they play me music. It's like,
donc, quand je rencontre des gens en tournée, ils me jouent de la musique. Quand j'ai habité à Paris, par exemple, j'ai écouté Say Few. Mais avant.
So, you know, you meet people tell you about. Their local
c'est
music.
Dans les rencontres, dans les oui, parce que les gens parlent de la musique de leur pays. Alors, sur cet album, c'est question de la vie et aussi de la mort. Avez-vous peur de la mort? On this album, you talk about life, but you also talk about death. Are you afraid of death?
No, that's why I talk about it, because I'm not afraid no, of death.
Non, c'est pour ça que j'en parle, parce que je n'ai pas peur de la mort.
See, some cultures, they don't want to talk about death.
Il y a certaines cultures qui ne veulent pas en parler.
Death is a part of life, right? So,
mais dans d'autres cultures, évidemment, la mort fait partie de la vie.
I write songs. I write songs about.
Si
life.
J'écris des chansons, j'écris des chansons
death
sur
is
la
a
vie.
Big part of life.
Et
so,
la mort est une grande
I write
partie
about death,
de
I write about
de la
life,
vie.
I write about people.
J'écris de tout, de la vie, la mort, les gens.
If you don't accept death, you never really accept life.
Si vous n'acceptez pas votre mort, vous n'accepterez pas votre vie. So, you're going to sing another song?
Yeah.
Alors, le deuxième titre, When We Die, justement, featuring Martin et Topley Bird, fidèle. C'est une chanson très, très gaie. Très
oui, on imagine.
Fidèle interprète depuis 22 ans, Martin et Topley Bird, c'est un retour. Tricky, dans le nouveau rendez-vous sur France Inter et sur Facebook Live, c'est à vous.
Thank you.
I go? Where do I go? Why don't I yell? Not like Michael. My friend's a psycho. So Michael, Lilo. So where do I go? Where do I go? Foreign trips. She's wearing Lyco. Where do we go? Where do we go? When we die.
Rendez-vous sur France Inter. Son album On Uniform sort le 22 septembre, donc dans 10 jours, sur son propre label False Idols. À la prise de son, Gilles Gaillard, Clément Villiers et Sacha Traupe. Et à la vidéo, Sandrine Laurent. Demain, Laurent, on reçoit Sandra Nkake.
Ce sera toujours une programmation de Marion Guilbeault.
Absolument.
Michel Hazanavicius, vous écoutez quoi, vous, comme musique?
J'écoute beaucoup de... Alors, c'est hyper éclectique. J'écoute beaucoup de musique de film. J'écoute de la soul, j'écoute de la variété française, j'écoute de la musique classique, plein de choses.
Et vous, Yann Fabre, vous écoutez quoi en ce moment, pendant la préparation de ce spectacle de 24 heures?
I mean, I'm born in... And I'm living in the United States of Antwerp.
We have fantastic bands. Moi, je suis né, je vis à Anvers. Hein. Il y a beaucoup de chanteurs pop là-bas.
Yeah, we have fantastic bands. The guy who composed the music for Mount Olympus is one of the best bands in Belgium.
Le type qui a composé la musique pour Olympus. On a d'excellents groupes à Anvers. Hein.
C'est, oui, c'est, je peux imaginer, là, c'est une band qui fonctionne très bien.
Deus, yes. Deus.
Ah oui.
Deus.
Take your fingers.
Ah, c'est Tricky qui a trouvé la solution.
Citaswoon. Very good bands.
Yann Fabre,
très bons orchestres, ouais. Très bons.
Yann Fabre, vous êtes The Artist, pour reprendre le titre du film de Michel Hazanavicius, une figure emblématique de la scène artistique flamande depuis plus de 40 ans. Plasticien, on vous doit le plafond de la salle des glaces du Palais Royal de Bruxelles, recouvert d'un 1 400 000 scarabées. Vous êtes chorégraphe, vous êtes auteur de théâtre. Le scandale du Festival d'Avignon en 2005, on s'en souvient, c'était vous, hein, avec des pièces violentes, éruption de corps, hystérie, nudité, les fluides corporels sur la scène. Vous êtes vous-même aussi performeur depuis la fin des années 70. À ce sujet, quel a été votre premier grand geste de performeur, celui qui a compté?
As a solo performer.
Le premier pour vous.
First one.
Celui qui a
en 77.
The money performance when I asked money to the public.
J'ai brûlé de l'argent en public.
And made with ashes of the burning money.
Et avec les cendres de l'argent brûlé, j'ai fait des dessins.
And text.
Des textes.
Ouais. 77, 78.
C'était en 77, 78.
Vous saviez que c'est interdit de brûler de l'argent?
I was arrested afterwards because
j'étais arrêté
it's national
après.
Property.
Parce que c'est une propriété d'État.
Hein?
C'est, voilà.
Vous avez été menacé pendant toutes ces années, quelquefois, au vu de ce que vous produisez sur scène. Parce que vous dites que vous avez été arrêté par la police, mais est-ce que, je ne sais pas, des mouvements politiques ont voulu combattre ce que vous montrez sur scène? Est-ce que vous avez été, est-ce qu'ils sont intervenus sur la scène?
No, I mean, you know, I'm living in Antwerp, in the Flemish side of Belgium.
Vous savez, je vis dans la partie néerlandophone de la Belgique. Maintenant, ça fait 25 ans que l'extrême droite fait des avancées, a du pouvoir de plus en plus.
And I was a couple of times through my violence and through my stage work.
Par ma violence et par mon travail sur scène, j'ai été vraiment dans des problèmes physiquement, hein, quand j'ai créé
le Palais Royal.
J'ai dû dormir dans 4 adresses, à 4 endroits différents quand j'ai monté le spectacle.
Yeah, a couple of times trouble in my country.
Ouais, j'ai eu quelques petits problèmes dans mon pays avec l'extrême droite à cause de mon travail.
Samedi, vous présentez Mount Olympus à la Villette, donc à Paris, durée 24 heures pour 27 comédiens et danseurs, des performeurs aussi qui vous suivent pour certains depuis plus de 40 ans. Il y a plusieurs générations sur le plateau. 24 heures non-stop. Je regarde Michel Hazanavicius. C'est vraiment une durée monstre qui va au-delà de ce que vous aviez mis déjà en scène dans les années 80. Parce que dans les années 80, vous aviez déjà signé des pièces qui sont devenues mythiques, que vous avez remontées il y a quelques temps, des pièces de 8 heures. Dans ces années 80, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, qui étiez à l'époque un jeune artiste, a inventé des spectacles aussi énormes?
Nothing pushed me, it was necessity.
Rien ne m'a poussé, c'était la nécessité. La nécessité.
Hunger, pleasure.
Hein, la faim de plaisir, FIM, de plaisir.
And probably that's the reason also 7 years ago I started the Mount Olympus.
Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai monté aussi le Mont Olympe.
I mean, you see this already in the work from the late 70s, 80s.
Dans les années 80, dans les années 70, il y avait déjà une base pour cette matrice grecque. La tragédie grecque.
Contemporary theater is
le théâtre contemporain est basé sur la tragédie grecque. Et j'ai décidé de créer Mount Olympus sur la trame de la tragédie grecque. Ça m'a pris des années. Et 12 mois avec 40 personnes, jour après jour, pour travailler sur un seul passage. Donc dans le système européen, c'est un choix politique, parce que maintenant, tout est dans le système théâtral, c'est comme, il faut créer en 10 semaines, 12 semaines, puis allez, il faut partir en tournée. Le fait d'avoir pris 12 mois, hein, c'est vraiment extraordinaire.
Ça, c'est peu dans le milieu du théâtre. Comme beaucoup de réalisateurs, vous allez au théâtre?
Oui.
Ah oui, mais vous êtes un des rares, parce que justement, généralement, ils n'y vont pas beaucoup. Ils n'aiment pas beaucoup ça. Ouais.
Non, je vais au théâtre. Bérénice était au théâtre, mais...
Bérénice Bejo, oui.
Ouais. Non, mais je vais au théâtre, on va à l'opéra, on va voir du ballet, on va voir de la danse contemporaine, on va voir plein de choses, ouais.
Vous connaissiez l'art de Yann Fabre?
Mais malheureusement...
Cette violence et cette hystérie qu'il peut y avoir sur scène?
Mais je suis assez curieux je suis assez curieux.
Transgression ou provocation?
La transgression est toujours quelque chose de naturel pour un artiste. Et la provocation, c'est toujours l'évocation de l'esprit.
Qu'est-ce que ça raconte, Mount Olympus? Puisque je ne l'ai pas encore vu, hein, ça va être donné samedi prochain. Ça raconte quoi exactement?
a kind of research to what means today catharsis.
C'est fondamentalement une recherche sur ce que signifie la catharsis dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que ça existe encore dans la société?
And it's through the stories from all the tragedies,
c'est à travers l'histoire de toutes ces tragédies
that we do this research.
Que nous avons fait cette recherche.
And it's also kind of conciliation between
une conciliation entre
the forgotten language of dreams and the forgotten language of tragedy.
Le langage des rêves et le langage de la tragédie. Parce qu'il y a un manque, beaucoup a été perdu.
Vous n'êtes pas sur scène?
You're not on stage, are you?
No, I'm a very bad actor.
Non, je suis un très mauvais acteur.
Ouais, mais vous êtes un sacré performeur. Parce que par exemple, en 2016, pour fêter les 40 ans de votre création, puisque en fin de compte, ce cycle de performance, ça commence en 76. Donc en 2016, vous vous étiez lancé dans, je cite, une tentative de ne pas battre le record du monde de l'heure établi par Eddie Merckx à Mexico en 72. Sous-titre, ou comment rester un nain au pays des géants. Ça consistait en quoi, cette performance qui fait déjà sourire Michel Hazanavicius? Yann Fabre, ça consistait en quoi?
Yeah, it was because the Museum of Contemporary Art in Lyon invited a traveling show.
Le musée d'art moderne à Lyon nous avait invité sur les acteurs en 76 et il fallait faire une nouvelle performance. Et j'ai vu un vieil hippodrome à côté du musée. Et j'ai dit aux gars, si je peux faire ça, je vais faire quelque chose d'extraordinaire.
No, to Eddie Merckx, an homage to Eddie Merckx. Because Eddie Merckx is, he was in my youth an amazing coureur. He was like the cannibal.
Pardon, sur Eddie Merckx. Eddie Merckx. Je voulais faire quelque chose sur Eddie Merckx. Parce que dans mon enfance, c'était extraordinaire. Eddie Merckx, il avait tout gagné.
On l'appelait le cannibal. Après le redoutable, le cannibal, vous saviez ça, Michel?
Oui, le cannibal. Moi, j'adorais Eddie Merckx. On l'appelait le cannibal parce qu'il bouffait tout.
He won everything.
Il gagnait tout. Il a tout gagné.
Ouais. So and I asked Mr. Merckx to do
donc,
a performance and
j'ai demandé à Madame Merckx de pouvoir faire une performance. Donc il a appelé tous ses potes du Tour de France pour la performance et j'ai essayé de battre son record.
And of course I failed.
Et là j'ai échoué.
The beauty of failure.
C'était la beauté de l'échec.
Et cette histoire de cannibale, comment ça pouvait rentrer en ligne de compte? Interprétation Michel Zoltowski.
I was also while I was driving on the hippodrome.
Pendant que j'étais dans l'hippodrome, je mangeais beaucoup de viande crue.
And smoking.
Et je fumais.
While I was doing it.
Pendant que je faisais ça.
Sur scène, est-ce qu'il y a sur scène chez vous, on voit tout, véritablement tout. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui sont impossibles pour vous à montrer? Est-ce qu'il y a encore des gestes ou des situations tabous sur la scène? Yann Fabre.
I think essentially nothing is taboo when
mais rien n'est tabou
when it's always with respect towards
quand c'est
the vulnerable.
Avec respect que l'on fait les choses
to the vulnerable.
Pour les vulnérables.
And that means you need respect for humans, animals.
Faut respecter les êtres humains, les animaux, tout ce qui est vivant.
So
faut means, les respecter.
And then there is no taboo.
Bah, donc là, à ce moment-là, il n'y a rien de tabou. Quand il y a de la passion, quand il y a de l'amour, eh ben, il n'y a pas de tabou.
C'est une question que vous posez quelquefois, Michel Hazanavicius, sur un tournage. Est-ce qu'il y a des gestes tabous, des gestes que vous ne demanderiez pas à vos acteurs?
Oui, bien sûr. C'est tabou, je ne sais pas, mais c'est des histoires de ce qui est votre morale personnelle, en fait. Je pense que c'est une autre manière de dire la même chose, mais ça dépend ce que vous cherchez, en fait, mais... Oui, il y a des choses dans lesquelles j'irai pas. Ouais.
Le sexe explicite, c'est quelque chose qu'il pourrait être dans votre cinéma?
A priori, c'est pas mes centres d'intérêt. Voilà, mais pourquoi pas? Enfin, je dirais, c'est pas. Non, je pensais pas à des choses comme ça d'ailleurs.
Vous pensez à quoi?
Non, plus des phrases éventuellement, des gestes déplacés. Mais encore une fois, en fait, ça dépend tellement de ce que vous êtes en train de raconter. Chaque film, en fait, définit des règles du jeu, en ce qui me concerne. À vous de les trouver et à vous de les établir. Et voilà, l'idée est de rester dans ces règles du jeu. Mais c'est plus des histoires de mauvais goût, je dirais.
Le mauvais goût, ça ne vous effraie pas du tout, Yann Fabre?
You know, there's a very good French artist who said once, you always have to go against your own taste.
Vous savez, il y a un grand artiste français qui a dit « Il faut toujours aller contre votre bon goût. »
Et c'est quoi votre bon goût à vous?
Marcel Duchamp.
So you have to always be against your own taste.
Il faut toujours aller contre son goût.
But you have to be always a servant of beauty.
Mais il faut toujours le serviteur de la beauté. La beauté, c'est-à-dire quelque chose d'éthique et d'esthétique, la conciliation des deux.
And I think then there's always respect for the vulnerable.
Il faut toujours avoir donc ce respect pour les gens qui sont vulnérables.
Est-ce qu'il est possible d'imaginer que Yann Fabre remontera, peut-être pas sur scène, mais en tout cas dans une autre performance, dans une nouvelle performance ? Est-ce que vous pensez à quelque chose ? Est-ce que vous continuez à pratiquer ?
Yeah, it's good, I think, as an artist to challenge yourself.
Là, vous savez, comme en tant qu'artiste, c'est bon de se lancer des défis à soi-même.
Test your own physical and mental limits.
Toujours tester vos limites mentales et physiques.
It's good.
C'est bon.
It's good to be humble.
C'est bien d'être humble. In humble situations. De se placer en tant qu'artiste dans des situations d'humilité.
Et bien, also performance is in that sense a very beautiful medium.
Vous savez, la performance est un médium extrêmement extraordinaire. Parce que la performance, c'est un médium qui n'est pas économique, c'est très puissant. Ça vous tire du monde économique, hors du monde économique. C'est la raison que je pense en tant qu'artiste, il faut y aller dans ces territoires où vous n'avez pas d'angle, où vous ne pouvez pas saisir les choses.
Ah ben ça va être le cas au Mont Olympus, 24 heures de théâtre, danse, performance, vendredi à la Villette à Paris. Les spectateurs ont un kit de survie, il y a une brosse à dents, parce qu'on peut dormir sur place, comme les acteurs aussi qui dorment, qui vivent véritablement un spectacle pendant 24 heures. Merci à vous deux, nos deux invités, Michel Hazanavicius.
Ah, presque. Mais
presque. Je voulais le tenter une dernière fois. Merci Yann Fabre.
I kinda miss my student loan. I miss sitting in the student home, sharing stories now. I simmer sipping sort of wrong, walking like I've been talking the talk, but can't afford a phone. Trust, I'm all alone, panicking to play it safe. This talk of paper chase is forcing me to stay awake. Living this layer cake where others will say it straight. Say they got my back and that they're praying I'ma pave the way. Like it's the great escape, brothers doing better than me. I'm in a hurry, worry, what if they forget about me? I'm just another number, nothing when the check will bounce. See, I went moving for money, but there's nothing but debt around me. So when the rest have found me bugging in the brain, and I'm somewhere between the struggle and the strain. They ask why every song the same, and I tell them it's 'cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Just 'cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, 'cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, 'cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, 'cause ain't nothing changed. Cause this is for the men of the house who were far too young. See, your friends are going out before you can't do none. You're raising funds for your mother and you can't do sons. Up in the rubble, raising trouble, what you can't do is run. And trust, I feel it, but can't conceal it. See, this inner city responsibility's killing me. I start to shiver when I think of all the I need. And see all my brothers burning paper on that sticky greed. Picking the thickest leaves, stuck in the mist. Saying the I should've quit but couldn't resist. And now they sit with a lark, a little luck and a wish. But trust, they still blow their mother a kiss. They're living up in the bits and slip, stagger through the puddles in the pain. Somewhere beneath the rubbles in the rain, they ask why every f***ing song the f***ing same. And I tell them it's 'cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Just 'cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, 'cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, 'cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, 'cause ain't nothing changed. Nah, 'cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Trust, 'cause ain't nothing changed. 'Cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. 'Cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed, saying ain't nothing changed. Nah, 'cause ain't nothing changed. Trust, 'cause ain't nothing changed.
Le coup de cœur de Valli, Loïc Carner, la relève du hip-hop anglais, Loïc Carner qui sera en concert au Pitchfork Festival à Paris le 4 novembre prochain. Une programmation très prospective de Jean-Baptiste Audibert. Le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal avec ça.
Vous plantez ni les bagnoles ni l'enquête, c'est compris?
Mesdames et messieurs les avocats, avez-vous des questions?
Pensez quand même à vous reposer, vous avez l'air d'une armée de zombies.
C'est un petit peu notre cas ce soir, manifestement. Le polar dans l'engrenage de la télévision, on en parle tout de suite après le journal.